Depuis les enquêtes du commissaire Maigret, les techniques de la police scientifique ont bien sûr beaucoup évolué, popularisées par les séries télé. Les outils utilisés aujourd'hui sont devenus plus familiers du grand public. Sont-ils pour autant infaillibles? C'est ce que nous allons voir avec mes invités qui vont nous permettre de pousser la porte des laboratoires pour suivre les évolutions de la police technique et scientifique. Ils vont nous raconter également quelques grandes affaires ayant illustré les méthodes de travail des experts. J'attends dès maintenant vos messages, toutes vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, les 40 ans de l'infatigable sonde Voyager.
Elle a sondé de nouvelles lunes, des planètes, observé la première éruption volcanique extraterrestre. Et ce n'est pas fini puisque Voyager 1 est sorti en 2012 du système solaire. C'est inédit. Retour sur 40 années de découvertes et de rêves avec l'astrophysicienne Cécile Ferrari.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous documentaire de France 5 Science Grand Format consacré ce soir à une école de gladiateurs. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Fanny Boyon et préparée par Thomas Lehété et Benoît Tonzon.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La science criminelle, donc aujourd'hui dans le dossier de l'émission pour parler des techniques de la police scientifique avec mes invités que je salue, le commissaire Richard Marlet et Laurent Penn de la police scientifique de Lyon. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
À vous deux, bienvenue. Richard Marlet, est-ce que les séries télé ont vraiment permis de comprendre le travail de la police scientifique?
Alors si vous voulez, la première fois, une petite confidence, la première fois où j'ai vu les experts Las Vegas, en fait j'ai été troublé parce que c'était la première fois que je voyais des révélations chimiques à base de cyanoacrylate telles qu'on fait dans les laboratoires d'identité judiciaire ou de police scientifique. La méthode était la bonne.
Bon, ben finalement, et c'est d'ailleurs avec les experts Las Vegas que vous ouvrez votre livre. Hein. On en parlera.
Après, je compléterai en disant c'est vrai qu'une affaire criminelle ne dure pas 52 minutes.
C'est ça. Laurent Penn, l'ADN, est-ce que ça peut toujours parler et dire la vérité?
Toujours dire, elle dit pas la vérité, par contre elle va connecter des personnes, des individus à des scènes d'infraction. Et c'est là après que le travail du policier commence, une fois que nous on a connecté des individus avec des scènes d'infraction.
Et vous êtes spécialiste hein, justement de l'ADN, on en parlera avec vous dans quelques minutes et on se retrouve pour en discuter avec les messages des auditeurs. Des questions pour vous, franceinter.fr et le hashtag l'attaque. Mais pour le moment, on place à la une de la science avec les 40 ans de Voyager 1, le premier objet construit par l'homme à être sorti du système solaire et à nous avoir envoyé une ambiance sonore. Et donc le 5 septembre 77, il y a tout juste 40 ans, Voyager 1 quittait la Terre, entamait son périple dans l'espace, une mission prévue pour 4 ans au départ, mais l'épopée s'est prolongée évidemment, et surtout au-delà de nos frontières. En 2012, la sonde Voyager 1 est sortie du système solaire en alimentant un nouveau champ de connaissances grâce aux données qu'elle nous envoie sur Terre. Agnès Fèvre, on en parle aujourd'hui avec l'astrophysicienne Cécile Ferrari.
Cécile Ferrari, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris Diderot et chercheur à l'Institut de physique du Globe de Paris. Et on peut dire que Voyager a marqué votre parcours scientifique puisque vous avez assisté, alors jeune étudiante, à son survol de Neptune.
Et oui, j'ai fait mes premiers pas scientifiques, effectivement, en analysant les images de la sonde Voyager 2 qui survolait Neptune en août 89. En fait. Voilà, et j'ai commencé à étudier les anneaux de Neptune, puisque la grande aventure à cette époque-là, c'était de savoir à quoi ressemblaient les arcs de Neptune qu'on avait découverts depuis le sol terrestre en 84 et 85. Je crois.
Et voir les anneaux de Neptune depuis une sonde, ce n'est pas le même ressenti que lorsqu'on les regarde depuis la Terre. Qu'est-ce que ça change?
Depuis la Terre, déjà, c'est un petit peu difficile de les imager, enfin c'est pas une vraie image qu'on a, c'est une vision scientifique qu'on a, effectivement, mais là quand on arrive, on a de vraies images, on découvre, c'est un peu Christophe Colomb qui arrive devant un nouveau rivage et qui découvre ce pays-là. Après, c'est une autre impression aussi entre l'observation qu'on fait de l'univers au sol et celle qu'on fait quand on regarde les images carrées. C'est un peu différent quand on est dans un télescope. On est vraiment dans c'est très physique. On est entre le ciel et la Terre et on est complètement dominé par cette voûte céleste. Quand on est devant un écran, c'est pas tout à fait les mêmes impressions, mais enfin le frisson est aussi important parce qu'on on a des images extraordinaires, nouvelles, qui nous montrent des mondes complètement inconnus. Ça, c'est un grand frisson. Hein.
Alors justement, hein, Cécile Ferrari, les 40 ans de Voyager, bah c'est ça, c'est ce que vous décrivez. C'est une découverte permanente de nouveaux mondes, en fait. Hein.
Oui, c'est ça. Et je pense que l'humanité a su saisir une belle opportunité à cette époque-là de savoir construire des sondes spatiales aussi bien équipées, avec des instruments, des caméras, des spectromètres, etc., qui permettaient de vraiment de mener une belle enquête scientifique. Et de profiter donc d'être prêt à lancer ces sondes au moment où les quatre planètes géantes étaient quasiment alignées, enfin à peu près dans la même direction. Et donc on a pu comme ça explorer le système solaire extérieur et le découvrir vraiment. Enfin, des points de lumière sont devenus des mondes à part entière. Et ça, c'est Voyager a un rôle fondamental en planétologie ces 40 dernières années.
On peut les reciter d'ailleurs, les quatre oui. planètes géantes. Hein. On peut les rappeler. Cécile Ferrari, allez, petit cours rapide de planétologie.
C'est Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Voilà.
Jupiter a été survenu en 79, je crois, 70-79.
Et c'était la première fois qu'elles étaient alignées hein, au moment de ce lancement en
Bah oui, hein, c'est pas facile. Il hein. Y en a une qui tourne en 5 ans, l'autre qui la plus lointaine qui tourne en 200 ans, je pense, ou à peu près. Donc pour qu'elles soient alignées à une époque donnée, il faut attendre un petit moment quand même.
Et là, on célèbre donc les 40 ans de Voyager 1. Qu'est-ce qui vous a marqué personnellement parmi les innombrables découvertes de cette sonde?
Bon, si je regarde du petit bout de ma lorgnette, c'est évidemment la découverte des anneaux de Jupiter, ceux d'Uranus, on n'a pas découvert depuis Voyager, mais enfin, on les a vraiment imagés, on les a mieux compris, et ceux de Neptune, évidemment. Puis après, il y a quand même Titan, son atmosphère d'azote, Encelade, les volcans Dio, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin... C'est tous ces points de lumière qu'on voyait du sol et bon sans détail et qui se sont révélés des mondes très actifs, très divers, beaucoup plus animés que ce qu'on pensait. Et voilà, donc on regrette un peu que pour Uranus et Neptune, on n'ait pas eu tout à fait l'opportunité enfin de bien les découvrir parce que la sonde Voyager 2 a eu quelques soucis, mais bon. C'est vraiment l'exploration, la découverte, vraiment, c'est tout azimut, en fait, je pense. Là, on parle que de l'image, mais il y a des tas d'instruments qui ont fait des mesures. On a pu comprendre comment étaient structurés les champs magnétiques des planètes. On a vu les structures nuageuses dans les atmosphères planétaires. Enfin, tout ça, c'était des premières données, des premières images avec des instruments qui observaient à toutes les longueurs d'onde, des tas de processus physiques différents, et là on a commencé vraiment à faire l'astrophysique de planètes.
Alors Cécile Ferrari, justement, Voyager et ses 40 ans, on le disait tout à l'heure, c'est le premier objet à sortir de notre système solaire. C'est où la frontière du système solaire finalement? À quel moment on sait qu'on est sorti de notre environnement, on va dire, le plus commun là?
Notre Soleil émet beaucoup de particules, donc des protons, des tas de particules à très haute vitesse, donc qui s'échappent du Soleil. Le Soleil est aussi un champ magnétique, donc il a une bulle qui nous préserve des particules qui viennent du milieu interstellaire, en fait. Et donc, quand on envoie une sonde, à un moment donné, on va sortir de cette bulle. Et on va être plutôt atteint enfin par des particules qui viennent du milieu interstellaire. Donc on observe ces petites particules et suivant dans quelle direction elles vont, on sait si on est dans la bulle solaire ou si on est à l'extérieur. Et ça a été un peu difficile de déterminer cette limite parce que parfois on avait l'impression qu'on y était, puis parfois on n'y était plus.
C'est ça.
Cette bulle. C'est un peu, en fait.
Ça a été très controversé, effectivement. Et il faut combien de kilomètres, alors, en gros, la frontière, c'est très fluctuant, hein, mais...
Oui, on est entre, je pense, 15 et 20 milliards de kilomètres.
D'accord.
C'est notre ordre de grandeur.
Voilà, c'est un petit
ordre. On est, en gros, à 10 fois la distance de Saturne, en fait.
Ouais. Et c'était pas du tout prévu que Voyager 1 s'aventure aussi loin?
Et aussi longtemps.
Aussi longtemps. Bon, on avait des réserves de plutonium, donc on savait qu'on pouvait durer longtemps, mais après, bon, il faut quand même un soutien au sol pérenne pour pouvoir écouter la sonde, la programmer, etc. Et puis, bon, il y a beaucoup d'instruments qui ne fonctionnent plus. Hein. Là, les instruments qui fonctionnent encore consomment peu d'énergie, donc effectivement, c'était pas prévu au départ, mais bon, c'est une belle reconversion tardive de c'est cette vrai. Sonde, c'est-à-dire qu'elle fait de l'astrophysique maintenant et plus de planétologie, on va dire. Hein. Et ça, c'est vraiment très très bien d'avoir réussi à les maintenir sur longtemps pour continuer à explorer in situ les limites de notre système solaire. En fait.
Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à les maintenir aussi longtemps au-delà des réserves de plutonium dont vous parliez? C'est que justement, c'est une des missions les plus fructueuses de la NASA et il faut que ça continue. Ça tient à quoi?
Je pense que bon, il y a vraiment à la NASA, etc. Ils ont vraiment un souci de d'optimisation des sondes, etc. Et c'était déjà une mission extraordinaire en elle-même. Et c'était une opportunité unique au niveau scientifique d'avoir une sonde in situ pour détecter cette limite, en fait. Et ils ont su en fait saisir cette opportunité scientifique et mettre les moyens pour maintenir des équipes pendant 40 ans, hein, pour manipuler cette sonde. Je pense qu'il a fallu former les jeunes aussi à manipuler cette vieille de chevaux.
Mais qui fonctionne toujours bien, en tout cas, qui a fait largement ses preuves, puisque c'était il y a 40 ans pour le départ, le 5 septembre 1977. Merci beaucoup, Cécile Ferrari. Vous êtes astrophysicienne et Agnès, à très bientôt.
À bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. La mobilité était-elle une affaire de femmes en Europe à la fin du néolithique? Eh bien, peut-être, avancent des chercheurs de Max Planck. Selon leur hypothèse, les femmes ont favorisé les échanges d'objets et d'idées par leur déplacement à une période cruciale, celle de la transition entre l'âge de pierre et l'âge de bronze. Leur étude parue dans la revue PNAS s'appuie sur des ossements de 84 personnes enterrées entre 2005 et 1650 avant notre ère, dans le centre de l'Allemagne actuelle. Il en ressort que les hommes assez identiques étaient tous originaires du même territoire, tandis que les femmes, au profil plus divers, provenaient bien souvent d'autres régions. Allez voir encore plus loin, l'infiniment petit, bien c'est l'objectif du plus grand laser à rayons X du monde qui a été inauguré vendredi dernier près de Hambourg, un instrument géant, 3,5 km qui s'enfonce à 38 mètres sous terre, de quoi plonger dans le micro-monde et le nanomonde, épier le fonctionnement des atomes et des molécules, scruter les processus chimiques, mais aussi les virus. Ce nouveau centre de recherche est financé par 11 pays européens. Et puis enfin, certains la surnomment la plus belle fleur du monde, on l'aperçoit à flanc de montagne et dans les régions froides du Japon, où elle est baptisée là-bas la fleur squelette. Ce joli spécimen que vous pouvez voir sur notre page Facebook a en effet la particularité de se métamorphoser après la pluie. Ses pétales blancs deviennent transparents. C'est l'eau qui chasse l'air entre ses cellules qui modifie la façon dont la lumière se réfléchit à la surface des pétales. Un procédé qui a intéressé des chercheurs en Chine. Ils ambitionnent de s'inspirer de cette réaction pour fabriquer des verres de lunettes de plongée capables de s'auto-nettoyer sous l'eau. Encore un exemple de biomimétisme avec cette fleur, donc à voir sur notre page Facebook. Et dans un instant, la police scientifique.
Tell me why you've been walking. rising up on your knees. Oh, please, come out, haunt me. I know you want me. Come out, haunt me. Sharing all your secrets with each other since you were kids. Sleeping sound.
Cigarettes After Sex avec Apocalypse.
La tête au carré sur France Inter.
Et le travail de la police technique et scientifique, donc cet après-midi dans l'émission avec mes invités Richard Marlet et Laurent Penn. Richard Marlet, vous êtes une des figures du 36 Quai des Orfèvres, commissaire divisionnaire honoraire. Vous êtes donc un jeune retraité qui a dirigé pendant 10 ans, de 95 à 2005, le service de l'identité judiciaire de Paris. Et vous publiez Les experts entrent en scène aux éditions First, un livre passionnant dans lequel on retrouve toutes les affaires que vous avez couvertes. Parce que en 10 ans, il s'est passé énormément de choses, tant du point des affaires que des technique. Et puis Laurent Penn, vous êtes quant à vous directeur adjoint du laboratoire de police scientifique de Lyon, spécialiste de l'ADN, et les auditeurs nous rejoignent bien sûr avec des messages et des questions pour vous. Richard Marlet, donc cette décennie 95-2005 où vous dirigez ce service de l'identité judiciaire, vous avez été confronté à un nombre de faits divers incroyables.
C'est-à-dire, oui, le jour où le directeur de la police judiciaire devait m'installer comme chef de l'identité judiciaire, donc il y a une petite cérémonie, et bien juste avant, en fait, mon service est intervenu pour une bombe qu'on venait de retrouver place Charles Valin, en fait. Donc on est dans la période des attentats de 95. Cette bombe n'avait pas explosé, elle était prévue pour exploser un dimanche. Et donc elle avait fait long feu. Et donc je me suis retrouvé sur cette scène de crime, cette scène d'attentat, avant même d'être chef de l'identité judiciaire. Et puis après, oui, j'ai connu les affaires Guy Georges, l'accident de Lady Di.
C'est ça. Le tsunami.
Le tsunami,
que vous êtes occupé des victimes françaises.
Oui, hein. Bien sûr. Ça, c'est une des choses dont je suis peut-être le plus fier, en fait, c'est d'avoir créé pour la préfecture de Paris, c'est-à-dire pour Paris, une unité d'identification de victimes de catastrophes, à l'instar de celle qui existait à la gendarmerie nationale, ou bien celle du service central d'identité judiciaire à Écully. Et j'ai estimé qu'en fait, une troisième force en appoint était peut-être pas négligeable. Et en fait, on l'a vu avec le tsunami, on a engagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde avec des équipes qui se relevaient à peu près toutes les 15 jours ou 3 semaines. Donc cette équipe a pu participer à ça.
Laurent Penn, quel est votre travail, vous, exactement, au sein de la police scientifique de Lyon ?
Aujourd'hui, j'ai un rôle managérial, mais je participe également activement aux analyses génétiques. Donc notre but, c'est de faire à la fois de la prestation de service, de proposer des analyses de plus en plus pointues dans différents domaines aux enquêteurs, qu'ils soient policiers, gendarmes ou magistrats, et en même temps de faire évoluer les techniques, donc de faire des projets, de trouver des financements pour proposer de plus en plus de méthodes pour pouvoir aller vers l'infiniment petit.
Ouais, est-ce qu'aujourd'hui la génétique et l'ADN en particulier, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux ou on a déjà des techniques qui pointent et qui sont encore plus efficaces ?
Alors on le verra, je pense, au fil des discussions. Il n'y a pas de mieux, il y a vraiment une complémentarité, il y a vraiment un faisceau de présomption à construire, un faisceau de preuves, et donc dans certains dossiers, ça va peut-être être l'ADN qui va sortir le dossier, comme on dit, et dans un autre dossier, ça va être une analyse de peinture, ça va être une analyse de fibre, ça va être une trace papillaire, et donc suivant le contexte du dossier, ce que vous allez pouvoir exploiter va varier, mais ça, c'est pas vous qui le décidez, c'est l'enquête et c'est les circonstances de l'infraction.
Ouais. Richard Marlet, il y a quelque chose qu'on apprend qui est tout à fait étonnant, les empreintes digitales, c'est les années 80.
Oh non, non, les empreintes. Ou 1880.
Mais la première fois qu'on les utilise, en tout
non,
cas.
Non, non, c'est, non, non, c'est pas du tout. Pas du tout. Donc, les empreintes digitales, on dit que qu'Alphonse Bertillon est le père des empreintes digitales. Ça, c'est une contre-vérité. Il était plutôt contre, en fait. Mais Bertillon est le premier à avoir fait une identification de traces digitales retrouvées sur une scène de crime par rapport à un fichier.
Ouais.
Après, si vous voulez, non,
faut que je retrouve mon info quand même.
Oui, parce oui, bien sûr.
Il y a quelque chose qui me titille, mais je vais retrouver.
Je comprends que vous soyez titillé. Non, c'est pas ça.
C'est la création du
l'important.
Fred. Pardon. C'est la création du fichier, peut-être.
Voilà.
Du
l'important, c'est ça. C'est et en police scientifique, en police technique et scientifique, l'importance de la création de la base de données est fondamentale, en fait. Toute la police technique et scientifique fonctionne sur la comparaison. Et dans la comparaison, vous trouvez une trace digitale, vous avez un suspect, vous allez comparer la trace digitale sur son empreinte digitale. C'est du 1 contre 1. Évidemment, lorsque vous voulez obtenir des résultats, le but que poursuivent les enquêteurs ou les policiers scientifiques, c'est de passer de la comparaison de 1 contre N. Et en fait, moi, quand je suis sorti de l'école des commissaires de police, ma première grosse affaire, c'est un des meurtres de Thierry Paulin. Thierry Paulin laissait beaucoup, beaucoup de traces digitales, mais on n'arrivait pas à identifier ces traces digitales. Il n'y avait pas de fichier informatique. Donc voilà, dès lors qu'on passe du contre 1 à contre N, on fait un progrès phénoménal. Et avec la génétique, c'est exactement la même chose.
Ouais. Alors justement, autour de l'affaire Thierry Paulin, on va écouter ce document d'archives qui date de décembre 1987. Et c'est très intéressant de voir de quelle façon il a été arrêté.
Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames, est passé à table ce matin. Sur les 11 meurtres, il en a reconnu 7 dans le seul 18e arrondissement et 2 dans le 14e. Déjà arrêté il y a quelques mois à Alfortville pour violence et infraction sur les stupéfiants, celui qui avait mobilisé toutes les polices de la capitale a été reconnu grâce à un portrait robot diffusé depuis quelques jours. Francis Jacob, dit La Foudre, commissaire dans le 18e, avait justement ce rapport dans la poche. Sur les circonstances, le récit du commissaire.
J'étais en train de converser avec des commerçants du quartier sur le trottoir à cet emplacement lorsque l'individu en question s'est présenté à quelques mètres du groupe. Bon, son signalement correspondant à celui diffusé, j'ai procédé à un contrôle d'identité.
Portrait robot et empreintes digitales, les aveux de Thierry Paulin ont déjà permis l'arrestation ce matin d'un complice, Jean-Thierry Mathurin.
Voilà, c'est quand même étonnant. On avait oublié aussi ce détail de l'époque, le portrait robot et ce hasard incroyable quand même.
Oui, enfin, hasard incroyable.
Se trouver face au criminel, enfin, c'est quand même...
Oui, bien sûr, mais je crois qu'il y a eu 3 portraits robots, en fait, et le dernier était vraiment le plus précis. Ouais. Et en fait, il y avait quelques éléments, une boucle d'oreille à l'oreille gauche, un antillais, mais avec les cheveux teints en blond. Donc il y avait beaucoup de choses, en fait, qui permettaient d'attirer l'œil au-delà même de la qualité du dessin. Bon, et Francis donc se trouvait à côté de son commissariat. Évidemment, il a son œil attiré par l'individu. Il le ramène assez facilement.
Ouais.
Et puis après, donc on compare les traces digitales avec les empreintes digitales. Et là, il n'y a pas de doute.
Ouais. Laurent Pennard, justement, c'est la complémentarité de toutes les techniques possibles qui fait que, à un moment, on peut justement attraper l'auteur du crime.
Oui, si on veut, c'est un domaine qui est très vaste. Donc, si on veut un peu le présenter de manière générale, on va dire il y a les disciplines d'identification, dont font partie évidemment l'ADN et les traces papillaires, qui sont les deux disciplines majeures d'identification. À côté de ça, deux disciplines, une qui commence vraiment à se développer, c'est tout ce qui est biométrie faciale, donc avec tout ce que ça peut comporter de problèmes éthiques, et une discipline plus mineure, mais qui dans des affaires criminelles importantes peut aider, c'est l'odorologie, donc discipline d'identification. Mais à côté de ça, vous allez avoir par exemple des disciplines qui vont permettre de rapprocher des affaires, tout ce qui est micro-traces. Micro-traces, vous retrouvez plusieurs traces de peinture sur plusieurs casses, vous allez pouvoir déduire que c'est la même équipe qui a à peu près le même mode opératoire, des choses comme ça. Donc rapprochement d'affaires et des disciplines micro-traces. Vous allez après avoir tout ce qui est balistique, associé à la médecine lésionnelle, qui vont vraiment aussi éclairer les circonstances, par exemple, d'un tir d'arme à feu. Et là, c'est pas l'ADN ou les traces papillaires qui vont vous aider. Il faut vraiment des spécialistes de ces domaines pour pouvoir vous éclairer.
Et on fait appel à toutes ces techniques au moment d'un crime ou lesquelles on choisit finalement?
C'est à géométrie variable. Il faut voir que finalement, pareil, si on veut un peu segmenter, il y a 3 grands types d'affaires. La délinquance du quotidien, où là, on va faire appel plus généralement à l'ADN, aux traces papillaires. Il y a l'affaire criminelle classique, où déjà, on va élargir le spectre. Et enfin, les affaires terroristes, où là, évidemment, c'est, on va dire, du no-limit. On va essayer de mettre tout ce qui est possible en œuvre. Ouais. Après, la question, c'est la discussion entre le service enquêteur et les personnels qui vont faire les constatations, donc l'identité judiciaire et les personnels de laboratoire, qui va faire, il y a besoin d'avoir une coopération pour définir quelle est la meilleure stratégie, parce qu'on est dans un domaine de travail en séquence, c'est-à-dire que si vous faites les traces papillaires, ensuite vous faites de la biologie, et il y a un côté, si vous voulez, on ne peut pas revenir en arrière. Si vous faites de la biologie, vous ne pourrez pas faire les traces papillaires. Ouais. Donc non seulement il faut définir le nombre de disciplines que vous allez mettre en œuvre, mais en plus il va falloir définir la séquence de travail. Donc ça crée une complexité avec parfois la pression médiatique, évidemment, la pression de la hiérarchie, etc. Ouais. etc.
Richard Marley, vous avez vu émerger vous toutes ces techniques, en tout cas pour les plus récentes, évidemment. Certaines arrivent encore régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un spectre très large.
Oui, bien sûr. Donc on a parlé tout à l'heure du fichier automatisé des empreintes digitales. Donc après, comme chef de l'identité judiciaire, donc je croise l'affaire Guy Georges. Donc Guy Georges est technicien de scène de crime niveau 1, donc il a des notions sur les traces digitales et les empreintes digitales, donc il ne touche à rien, ou lorsqu'il touche un objet, il repart avec. Mais il laisse des traces biologiques. Et là, si vous voulez, j'aime pas quand l'histoire bégaye, mais on n'arrive pas à identifier Guy Georges parce qu'il n'y a pas de fichier national automatisé des empreintes génétiques. Ouais. Et ce qui est redoutable, en fait, c'est que pas très loin, de l'autre côté de la Manche, il y a un fichier d'empreintes génétiques.
Ouais. Ouais, donc, d'où l'idée d'en créer un très vite dans notre pays.
Évidemment, et puis après, c'est vrai que je vais monter une section qui va exploiter de l'image, parce qu'en fait, on sent bien que l'exploitation de l'image est fondamentale. Les progrès en reconnaissance faciale sur les 10 dernières années sont considérables, mais ça va poser d'autres problèmes. Et pour passer, là encore, de la comparaison de 1 contre N, il va falloir monter une base de données. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette base de données?
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion et les messages pour vous sur le site de La Tête au Carré.
Ce jour essuyer la poussière de ce réverbère maudit. Le voilà qui s'endort au son des claquetis.
Il s'enfuit dans les
Laura Cahen avec Réverbère.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
J'ai réussi à remonter le numéro de série d'automatique. Il a été volé dans une armurerie lyonnaise il y a 3 ans.
T'as relevé des empreintes?
Ouais. Celle de droite, c'est celle de Laura. On la retrouve en pagaille sur l'arme.
Et celle de gauche?
Inconnue au bataillon, non identifiable par le fichier.
Marc, tu peux venir voir? J'ai analysé la tache bleue que Laura avait sur le doigt. C'est de la peinture en bombe. Stuc à 2 composants. On s'en sert pour peindre sur les carrosseries. C'est aussi utilisé par les taggeurs et les graphistes de rue. C'est la composition de la drogue prise par Laura.
Iode, phosphore rouge, gaz chlorhydrique, isosafrol, méthanol, benzène, soude. 50 microgrammes par millilitre de sang.
C'est quoi cette drogue?
Un mélange détonnant. 100% artisanal. Le type qui a fabriqué cette saloperie est un assassin en puissance. Ah, puis j'ai lancé la recherche d'ADN, tiens. On devrait avoir le résultat.
Du sang retrouvé sur le t-shirt de Laura?
Regarde ça, il y a 300 différents. Celui de Laura, mais aussi celui de 2 autres personnes, un homme et une femme.
Faut absolument les retrouver.
Ça va très vite, Denris, police scientifique, extrait de l'épisode 8 de la saison 1, pour parler justement des méthodes de la police scientifique avec mes invités, le commissaire Richard Marlet et Laurent Penn de la police scientifique de Lyon. Un commentaire, Laurent Penn, justement, sur ce que vous venez d'entendre. Ça vous fait sourire ou pas, ça?
Oui, ça me fait sourire. Après, vous savez, la fiction, après, finit par rattraper la réalité, enfin, ou la réalité rattrape la fiction, plutôt. Parce que, aujourd'hui, quel est le temps clé pour un personnel de laboratoire? C'est le temps de la garde à vue. Entre 24 et 96 heures. Et de plus en plus, on nous demande de sortir des résultats dans ce temps-là.
Donc, ça va vite quand même.
Et si je prends l'exemple des attentats, de certains attentats parisiens, parfois, sur 5-6 heures, on a pu faire une exploitation d'un support, par exemple, d'une cagoule pour identifier un des terroristes. Donc, 5-6 heures. Bon, c'est pas encore les 52 minutes d'une série télévisée. Mais
parfois, parce qu'on voit que les résultats arrivent quasiment instantanément.
On s'en rapproche.
Ouais, Richard Marlet.
Oui, ben, je partage complètement. Mais après, ce qui est détonnant, en fait, c'est que vous ayez autant de résultats aussi vite. Donc ça veut dire qu'en
ils
fait,
ont un bon labo.
Oui, c'est ça, on a un laboratoire mobile, complètement polyvalent et qui est capable de faire de la chromatographie, de la spectrométrie, de l'analyse génétique.
Ça vous en rêvez finalement, hein, de ce type de labo, non?
Pas tout à fait.
Ah bon?
Pas tout à fait. Ce dont je rêve, en fait, Lecarre en rêvait déjà au début du XXe siècle, hein, c'est une vraie complémentarité entre toutes les disciplines, ce que les anglo-saxons appellent les sciences forensiques, en fait. Et
donc entre la police, la gendarmerie, les labos privés aussi, ça veut dire ça, non?
Bien sûr que oui, mais surtout entre les échanges entre les spécialistes. Ça, franchement, j'en rêve. Enfin, un peu sur le modèle du laboratoire des sciences judiciaires du Québec, en fait, où dans le même immeuble, vous avez l'IML, la police technique, la police scientifique, et tous ces gens-là, en fait, quand il y a une autopsie d'une personne tuée par arme à feu, en fait, vous avez le photographe qui est allé sur la scène de crime, qui a vu la scène de crime, vous avez le médecin légiste et vous avez le balisticien. Ça commence à venir.
Pourquoi ça fonctionne pas en France? Laurent Penn.
Alors, il y a une première différence, c'est vraiment lequel la médecine légale, dans beaucoup de pays, en particulier européens, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, les médecins légistes, par exemple, c'est les premiers à avoir fait de l'analyse génétique. En France, ce n'est pas le cas. Les premières phases d'analyse génétique, c'est plutôt des laboratoires, le CHU de Nantes, par exemple, qui était un service de génétique humaine. Et donc, ça a créé déjà une première, on va dire un schisme ou une fracture. Et donc, quand vous créez historiquement comme ça des frontières, c'est dur après à abattre. Mais on y vient. L'exemple, c'est qu'on a recruté au sein de l'institut dans lequel je travaille, donc l'INPS, un médecin légiste récemment. Mais il y a aussi la réforme de la médecine légale qui interdit, par exemple, on a fait une étude juridique. Un laboratoire comme le mien aujourd'hui ne peut pas avoir de salle d'autopsie parce que on n'est pas dans le spectre de la réforme de la médecine légale qui a créé des plateaux de référence. Par exemple, à Lyon, c'est l'IML de Lyon. Donc, il y a aussi des fois des barrières juridiques qui peuvent se comprendre, Mais on y vient après. Il y a la frontière aussi avec les gens qui vont sur la scène d'infraction. Et là, on est quand même sur des équipes séparées, même si aussi on cherche à mieux les faire collaborer. Par exemple, on a créé un service central de PTS aujourd'hui à Écully qui a cette vocation de mieux faire collaborer les différents maillons de la chaîne criminalistique.
Camille sur Facebook demande en quoi les technologies numériques ont fait évoluer le travail de la police scientifique. Richard Marlet.
Bah là, vous avez quelques outils qui ont fait leur apparition. Je crois que c'est l'ancien directeur, celui qui vient d'être qui a été limogé très rapidement par Donald Trump, le directeur du FBI, qui disait en fait probablement le meilleur support d'indice sur une scène de crime, c'est un téléphone portable. Voilà, donc l'explosion des téléphones portables, on a parlé tout à l'heure de l'exploitation de l'image, mmh. oui bien sûr, et puis demain les maisons, la domotique, ouais. les véhicules qui sont eux aussi extrêmement informatisés.
Enfin, donc autant ça, de traces qu'on autant peut laisser.
Autant de sources qui peuvent donner des traces à analyser.
Ouais, vous êtes d'accord Laurent Penn aujourd'hui?
Oui, à la fois ça donne plus de possibilités d'exploitation et ça donne aussi plus d'outils, puisque aujourd'hui on va utiliser les outils numérique pour exploiter la scène d'infraction. C'est-à-dire, je vais utiliser un drone pour avoir une vue de haut de la scène. Je vais utiliser un scanner pour scanner en 3D la scène d'infraction. Donc, ça donne aussi, voilà, la possibilité d'avoir des nouveaux outils numériques d'exploitation de la scène, mais là, au bénéfice des services de PTS.
Dans le cas de la disparition de Maëlys, là, en ce moment, comment travaillent justement les équipes, Richard Marlet?
Je pense que des affaires de ce type, les disparitions, se fait partie des enquêtes les plus difficiles en fait.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas de scène de crime en fait. Vous avez une disparition, quelque chose qui manque. Et je pense que les enquêteurs souhaitaient. Donc on pourra parler aussi du travail des auditions jusqu'à pratiquement Grégory, on n'avait jamais entendu parler d'anacrime et je pense que l'exploitation des témoignages aussi à travers des outils, c'est quelque chose d'assez important. Mais donc en fait, ce que souhaitaient les enquêteurs, c'est d'avoir quelque chose qui puisse porter des traces. Et ce quelque chose, c'était le véhicule. Bon. Donc le véhicule a été exploité, donc on parle beaucoup d'une trace ADN. Il y a des choses à vérifier, ouais. dans les déclarations, les vêtements de l'individu. Je crois qu'il a acheté un short, enfin son téléphone. Un téléphone, il faudra qu'il explique pourquoi il le coupe au moment de la disparition de la gamine.
Ouais, les traces ADN, justement, dans des cadres familiaux, c'est d'autant plus difficile, précisément, Laurent Penn.
Oui, c'est une des grosses différences entre les traces papillaires et les traces ADN, c'est cette notion de lien familial. Entre deux frères, vous n'avez pas de caractéristiques communes sur des traces papillaires. Par contre, vous allez en avoir au niveau génétique. Donc, effectivement, dans des affaires comme ça, sur un mariage, on peut penser évidemment qu'il y a beaucoup de gens apparentés présents à ce mariage, il faut faire attention, effectivement, au lien de parenté, mais surtout ce qu'elle a d'emblématique dans ce qu'on vit, nous, au niveau des tribunaux quand on dépose, c'est que c'est la grosse bataille du transfert. C'est-à-dire que, apparemment, je n'ai pas accès au dossier, donc je ne fais que répéter ce que disent les médias, il y aurait une trace ADN de la petite fille dans la voiture du mis en cause. Et évidemment, maintenant, à la limite, le mis en cause ne remet pas en question la question essentielle de la source, c'est-à-dire qui a pu laisser la trace. Ok, il y a une trace féminine qui appartient apparemment à la petite fille. Et maintenant, les deux choses qui vont s'affronter, c'est dans quelles circonstances l'ADN de la petite fille a pu être transféré dans la voiture. Le mis en cause a une théorie défendue par son avocat et évidemment les enquêteurs ont une vue totalement différente avec les magistrats derrière. Ouais. Et donc là maintenant, il va falloir étayer ces deux hypothèses pour pouvoir soit disculper le mis en cause, soit forcément le mettre en grande difficulté.
D'où aussi l'importance des auditions, bien sûr, parallèlement aussi aux traces et aux preuves matérielles.
Enfin, l'importance, c'est la pertinence de la trace. En fait, c'est le lien qu'elle établit entre l'auteur, la victime, l'auteur, l'arme, la victime, la scène de crime, etc., etc. L'important, c'est sa pertinence. Enfin, on retrouve vos traces digitales sur le guichet d'une banque. La banque est braquée, ça fait pas de vous le braqueur. Ouais. Par contre, si on trouve votre trace digital dans le tiroir où il y avait les clés du coffre et que le coffre a été ouvert, là oui, donc on a le vestige d'une présence et de temps en temps c'est le vestige d'une action aussi. Et là, ça devient particulièrement intéressant.
Ouais. Laurent Penn, qui coordonne au fond une affaire comme celle de la disparition de Maëlys aujourd'hui pour réunir tous les indices qui sont récoltés au travers de différentes disciplines scientifiques?
Donc ça dépend du cadre d'enquête. Il y a une première partie de l'enquête qui est de la flagrance, donc là c'est vraiment plus les enquêteurs qu'on la met en collaboration avec le parquet. Et là, dans l'affaire de Maëlys, apparemment, je parle toujours sous information des médias, il y a des juges d'instruction qui ont été nommés. Donc après, c'est vraiment les juges d'instruction. Là, apparemment, ils ont nommé deux juges d'instruction du siège de Grenoble. Et donc là, c'est vraiment eux qui pilotent, qui vont interagir avec les gendarmes, avec les laboratoires, pour faire les analyses nécessaires à la manifestation de la vérité.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion, juste après Un Temps pour Tout et Vincent Delerme sur France Inter.
J'ai aimé comment votre main par instant modulait le son de la modulation. Votre main fouillant, Michouko boîte à gants, votre main dans mon cou. Il y a un temps pour tout. J'aime votre visage à la lumière du péage. Aimez cette discussion sous le panneau des directions. J'aime vos théories sur les autoroutes la nuit. J'ai aimé dormir chez vous.
Il y a un temps pour tout.
J'ai aimé comment vos yeux de temps en temps suivaient le chemin. Un doigt sur le Michelin, vos yeux démasquants. Une sortie monte au banc, vos yeux près des miens flous. Il y a un temps pour tout et j'aimais votre visage à la lumière du péage. Aimais ces discussions sous le panneau des directions. J'aimais vos théories sur les autoroutes la nuit. J'aimais dormir chez vous.
Il y a un temps pour tout.
Vos lèvres accrochaient le rebord d'un gobelet. Vos lèvres soufflant des nuages de froid blanc. Pour vos lèvres j'avoue, il y a un temps pour tout. Et j'aime votre visage à la lumière du péage. Aime cette discussion sous le panneau des directions. J'aime vos théories sur les autoroutes la nuit. J'aime dormir chez vous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout.
La tête au carré sur France Inter.
Richard Marlet, commissaire divisionnaire honoraire, et Laurent Penn, directeur adjoint du laboratoire de police scientifique de Lyon, mes invités pour parler justement des techniques et des méthodes aujourd'hui de la police technique et scientifique. Avec Camille Gaël, pardon, sur Facebook, qui demande comment on devient policier scientifique. Est-ce un métier d'avenir, Richard Marlet?
Alors,
il y a beaucoup de candidats en tout cas apparemment.
Voilà, hein. On devient policier scientifique ou alors. Vous avez deux solutions en fait. Ou bien vous épousez la carrière de policier et vous allez arriver dans des services d'identité judiciaire ou dans des laboratoires de police scientifique. Mais cette carrière, je crois qu'elle se raréfie et que de plus en plus, alors j'ai mon avis, hein, parce que j'ai commandé pendant 10 ans un service de 200 personnes où il y avait policiers et scientifiques. Et franchement, c'était pas si mal que ça. Voilà. Et donc, on va plutôt maintenant vers une carrière de scientifique avec 3 niveaux de recrutement, je crois, hein. Des agents spécialisés de la police technique et scientifique, des techniciens de laboratoire et des ingénieurs de laboratoire.
Ouais. Mais Laurent Penn, ça marche très très bien. Il y a plein de jeunes et des filles, autant que des garçons d'ailleurs, hein, qui souhaitent embrasser ces métiers aujourd'hui.
Hein. Oui, puis c'est des métiers assez divers parce que si vous faites de la scène d'infraction, c'est une partie du métier. Si vous travaillez en laboratoire, c'est encore un autre métier. Mmh. Vous pouvez travailler pour les grands fichiers. Donc voilà, sur une carrière qui va durer quelques dizaines d'années, ça vous permet aussi d'embrasser différents métiers.
Mmh. Vous me disiez en antenne toujours au sujet de la disparition de Maëlys, mais c'est le cas évidemment pour toutes les autres affaires. Au fond, c'est une sorte de puzzle avec des éléments qui s'imbriquent les uns derrière les autres ou d'ailleurs qui ne s'imbriquent pas non plus parce qu'on prend aussi de mauvaises directions parfois dans ces enquêtes.
Bah sur une affaire comme ça, oui, on va essayer de mettre en œuvre de la pluridisciplinarité. Hein. Aujourd'hui, on parle d'une trace ADN. Peut-être que demain, on va nous révéler qu'il y avait une fibre présente du vêtement de la jeune fille, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est ce puzzle qui se met en place petit à petit. Sur les fausses pistes, ça peut arriver. Des gens peuvent maquiller des scènes d'infraction. On peut aussi avoir des bizarreries génétiques. Si on parle ADN, oui. Il y a tout l'aspect greffe, par exemple, donc suite à des aplasies médulaires. Donc vous avez un problème de cancer au niveau de votre moelle osseuse, qui est le siège de la fabrication des cellules sanguines. On vous fait une greffe et donc vous allez être un individu finalement chimère avec un profil génétique de, par exemple, de votre salive qui sera différent de votre profil sanguin. Mmh. Et donc ça, sur des exploitations de scènes d'infraction, ça peut entraîner quelques cauchemars pour l'expert qui interpréter ce type de résultat. Et là, pareil, le travail, la collaboration avec l'enquêteur, la discussion avec l'enquêteur est essentielle parce que devant des résultats pour le moins étranges, c'est souvent de la discussion que naît la lumière.
Ouais. Richard Marlet, des exemples justement d'enquêtes qui se sont engouffrées comme ça dans une mauvaise direction.
Un risque aussi terrible, c'est le risque de contamination ou de pollution. En fait, j'ai en mémoire la terrible affaire Giraud-l'Herbier, en fait, où on a retrouvé les corps et les corps étaient ficelée avec des adhésifs. Sur les adhésifs, on a mis en révélation deux profils génétiques, un qui correspondait à l'auteur et puis un profil masculin qu'on n'arrivait pas à identifier. Les enquêteurs ont fait pratiquement le tour de l'Europe, le tour des fichiers génétiques, hein, et puis sont les vérifiés, ça a pris des mois et des mois et des mois, jusqu'au moment où en fait on a découvert que ce profil génétique appartenait à un technicien de scène de crime, en fait, qui par mégarde avait laissé... quelques cellules sur cet adhésif. Ouais.
Il y a cette histoire aussi de concierge amateur de préservatifs
oui, c'est ça.
Qui
alors,
a
ça,
maquillé son crime oui, avec les préservatifs de ses voisins,
en fait. Oui, c'est ça.
Enfin, des habitants de l'immeuble.
Oui, c'est une affaire terrible en fait d'un gardien d'immeuble en fait qui a séquestré pendant plusieurs jours, violé et assassiné une de ses locataires. Et en fait, il avait récupéré des préservatifs dans les poubelles et s'était servi du sperme pour le laisser sur la scène de crime en fait.
Et au bout de combien de temps est-ce qu'on a découvert le poteau rose ?
Je crois que ça a été assez rapide, mais franchement c'est un petit peu loin dans ma tête, mais je crois que ça a été assez rapide et c'est l'enquête traditionnelle. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas la police scientifique ou la police traditionnelle d'enquête. La seule bonne police, c'est celle qui fait « et », celle qui mêle les deux.
Affaire Grégory, hein, rebondissement après rebondissement, c'était le cas le 15 juin dernier.
Voilà près de 30 ans que ça dure. Un nouvel épisode dans l'affaire Grégory, l'une des énigmes judiciaires les plus célèbres de la seconde moitié du XXe siècle. Saura-t-on vraiment un jour qui a assassiné ce petit garçon, retrouvé ficelé et noyé, un jour d'octobre 84 dans un cours d'eau des Vosges ? Eh bien, encore raté. Des analyses ADN avaient été autorisées en septembre dernier par la cour d'appel de Dijon, à la demande des parents sur les vêtements et les chaussures de l'enfant, mais le procureur l'a annoncé cet après-midi à Dijon, donc ces nouvelles analyses ne permettent pas de mettre un nom sur les profils ADN. Nathalie Hernandez.
Au total, une dizaine d'ADN, soit mélangés, soit partiels, soit complets, a été extrait grâce à des techniques ultra sophistiquées. Identifiés sur les cordelettes, le pull, le t-shirt, le pantalon et l'anorak du petit garçon. Seuls deux profils ont pu être identifiés, celui de Grégory et celui d'un enquêteur de l'époque. Tous les autres restent inconnus. Mais ce dossier n'est pas refermé pour autant. Pour le procureur général, il y aura probablement d'autres prélèvements.
Alors, Laurent Penn, d'ailleurs, une question de Jacqueline Arosé qui demande pourquoi autant d'échecs autour de l'affaire Grégory ?
Autour de l'affaire Grégory, l'échec, il est initial, c'est-à-dire dans la gestion de la scène de crime. Les spécialistes de scène de crime vous le diront, si vous loupez la gestion de la scène, et à l'époque, on ne peut pas dire qu'on l'avait vraiment loupée, mais c'est qu'elle n'était pas gérée comme on la gère aujourd'hui, donc on était quand même il y a quelques dizaines d'années. À partir de ce moment-là, si vous voulez, les preuves ne vont pas pouvoir être exploitées par la suite. Et en plus, aujourd'hui, on essaye d'appliquer des techniques des années 2017 à une gestion de scellé des années 80. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans tout ce qu'on essaie d'exploiter dans l'affaire Grégory, on est sur des traces qu'on appelle de contact dans le jargon, c'est-à-dire des traces de manipulation. Si vous regardez les images d'archives de l'époque, quand vous regardez comment se passe la gestion de la scène de crime, vous allez voir tout un tas d'intervenants, gendarmes, magistrats,
peut-être de
curieux journalistes à l'époque, qui vont pouvoir avoir accès aux scellés, manipuler, etc. Donc, le sujet que vous venez de passer parlait de 6-10 ADN mélangés. On retrouve du coup, si vous voulez, une infâme soupe d'ADN. Et de là, si vous voulez, même si on retrouvait peut-être un ADN exploitable, quelle serait la pertinence, quelle serait la valeur juridique aujourd'hui devant un tribunal de cette preuve, sachant qu'aucune précaution n'était prise pour la conservation des preuves.
Ça veut dire, Richard Marlet, qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire ?
Ah, je ne serais pas aussi définitif que vous. C'est-à-dire que l'affaire a connu des rebondissements. Tout récemment, grâce à un nouvel outil Anacrim. Là, par rapport au début de l'affaire Grégory, les enquêteurs n'ont pas connu de pression. Ils ont pu travailler pendant des mois et des mois, vérifier tous les témoignages, trouver des zones de contradiction, des troubles. Je crois me souvenir qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont mises en examen. Il est vrai que la vérité ne sortira pas de la preuve scientifique.
C'est ça.
Mais je veux dire, jusqu'à Bertillon, la police judiciaire sortait des affaires, obtenait des aveux, et voilà. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que évidemment, les traces digitales, les traces génétiques, ça élucide des affaires. Bon, après, la question que je me pose, c'est est-ce que ces affaires nombreuses, très nombreuses, voire trop nombreuses, sont réellement traitées par les services de police. Voilà, c'est-à-dire que si vous passez de 10 identifications de cambrioleurs par mois à 100 identifications de cambrioleurs par mois, est-ce que les services de police ont les capacités de les traiter toutes? Est-ce que la justice a la capacité de les traiter toutes?
Mais Laurent Penn, vous avez peut-être une réponse à cette question de Richard Marley.
C'est une vraie question. Je me pose, honnêtement, je me pose la même. Quand on voit effectivement le nombre d'identifications, hein, une équipe comme celle de Lyon, par exemple, on est autour de 400 identifications mensuelles qu'on envoie au service. Voilà. Et effectivement, le policier, dans un petit commissariat, il est polyvalent, par définition. Il va pas faire que de l'investigation. Parfois, il va faire du maintien de l'ordre pour une manifestation. La Tour de France qui passe, il est mobilisé, etc., etc. Et aujourd'hui, ça peut participer un peu de la grogne qu'on entend actuellement. On lui demande beaucoup. En particulier, la police technique scientifique est effectivement un pourvoyeur de pistes. Mais la piste, c'est pas le personnel de PTS qui l'exploite. C'est vraiment le policier, l'OPJ, comme on dit, l'officier de police judiciaire. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, si on lui donne trop de pistes, il y a effectivement parfois un petit peu un engorgement de la machine.
Allez, très vite, parce que c'est la fin de l'émission. Richard Marley, la technique du futur, en tout cas celle qui sera pour nous la plus prometteuse, la plus efficace.
Écoutez, moi je sais que je me suis beaucoup intéressé donc, à la reconnaissance faciale et les progrès sont phénoménaux.
Ouais. Phénoménaux. En attendant, on peut dire les experts entrent en scène. C'est la révolution de la science criminelle chez First dans la collection Documents que vous signez Richard Marley. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans La Tête au Carré.
La science grand format en partenariat avec France 5.
Et c'est donc aussi la rentrée pour le documentaire scientifique sur France 5, Science Grand Format ce soir, désormais donc le mardi avec La Tête au Carré. Et pour nous en parler de cette rentrée, Caroline Béard est avec nous, bonjour.
Bonjour.
La directrice de l'unité documentaire. Caroline, le document de ce soir nous emmène à une quarantaine de kilomètres de Vienne, sur les bords du Danube, à la découverte d'un site archéologique exceptionnel, c'est le site de Carnuntum.
Oui, tout à fait. Alors, la science et la technologie peuvent parfois faire des merveilles, puisque il y a 25 ans de ça, on avait une photo aérienne des bords du Danube qui mettait la puce à l'oreille aux archéologues, puisqu'elle révélait la présence assez probable d'un site enfoui, mais très difficile à exhumer. Et 25 ans après, grâce aux nouvelles technologies d'archéologie, des technologies non invasives, les archéologues peuvent affirmer de manière certaine que ces sous-sols renferment bien des vestiges de toute une ville, que ce sont des constructions assez rares dans l'Empire romain, ce qui semble être une école de gladiateurs. Et donc on a 11 000 km² de vestiges dans un état de conservation incroyable, qui en font un site unique.
Eh bien,
je vous présente l'extrait peut-être.
Voilà, Carnuntum, la cité perdue des gladiateurs, on l'écoute.
C'est toute une métropole qui est ensevelie là, impossible à exhumer même en 1000 ans. Mais c'est un terrain d'expérimentation parfait pour l'archéologie non invasive.
Sous les champs, les scanners révèlent petit à petit des rues, des bains, des temples. Et un site plus particulier. Un lieu où des hommes s'entraînaient, combattaient et mouraient dans la plus pure tradition romaine. Les ruines de Carnuntum renferment secrètement la cité perdue des gladiateurs.
Caroline Béard, en quoi la découverte d'une école de gladiateurs est si importante? Parce qu'on sait peu de choses en réalité sur la vie qu'ils menaient, hein.
Tout à fait. Ben, en fait, cette école de gladiateurs, elle est exceptionnelle parce que c'est la seule connue en dehors de Rome. Alors qu'en fait, on sait que l'Empire romain en aurait compté une centaine. Donc grâce à ces fouilles qu'on va suivre dans le film, on va vraiment pouvoir comprendre comment ils s'entraînaient, comment ils combattaient, et surtout avoir une vision beaucoup plus précise et réaliste de ce qu'étaient leurs conditions de vie.
Voilà, et on verra également les stars hein, qu'ils étaient à l'époque. Ils avaient énormément de valeur, et puis la soirée également va se poursuivre avec un second documentaire sur les mystérieuses catacombes de Rome. C'est donc ce soir. Ben, on se retrouve ensemble à 20h50 pour le rendez-vous Science Grand Format de France 5. Merci beaucoup Caroline Béard.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Et c'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Élise Berger et Pierre-Yves de Rolin qui étaient à la technique aujourd'hui et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.